Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Louis. Une femme est allongée sur un canapé, sa jambe droite négligemment posée par-dessus le dossier, sa gauche repliée contre l'accoudoir. Ses cheveux sombres entourent de façon désordonnée un visage dont on ne saisit pas l'expression. Peut-être qu'elle dort. Elle porte ce qui semble être un pyjama. Ses pieds sont nus. Ses mains sont détendues, l'une entremêlée aux cheveux, l'autre reposant entre ses cuisses. C'est une photo en noir et blanc, prise par Annie Leibovitz en 1988. La femme sur la photo, c'est l'écrivaine et intellectuelle Suzanne Sontag. Je l'ai découverte lors de l'exposition « A Photographer's Life » à la Maison européenne de la photographie à Paris en 2008, qui retrace en 200 tirages le travail de 90 à 2005 de la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz. C'était il y a presque 15 ans, et pourtant, je garde en mémoire les émotions qui me traversent alors que je chemine dans l'expo. De façon chronologique, s'entremêlent les photos mythiques de stars, John Lennon, nu dans les bras de Yoko Ono, les mains de Bruce Willis sur le ventre de Demi Moore enceinte, Brad Pitt, George Bush, Nicole Kidman. Et des photographies beaucoup plus intimes, tirées de la vie personnelle d'Annie Leibovitz. Ses parents qui font la cuisine, la vue de sa terrasse à New York, la naissance de sa fille. Et partout, Suzanne. Suzanne qui prend son bain, Suzanne déguisée en ours lors d'une fête de Nouvel An, Suzanne endormie, Suzanne enroulée dans une couverture sur le pont d'un bateau, Suzanne malade, dans un lit d'hôpital, et même Suzanne morte. Annie Leibovitz et Suzanne Sontag se sont rencontrées en 88 et ne se sont plus quittées. Ce n'est qu'après le décès de Suzanne en 2004 que la photographe a exposé ses clichés intimes, révélant une histoire d'amour gardée confidentielle jusqu'alors. Dans cette photo de Suzanne sur le canapé, ce qui me bouleverse, c'est le relâchement total du sujet. Cette position à la fois enfantine et sensuelle, les muscles détendus, au repos. En l'observant, je me dis, quel degré d'intimité faut-il pour capturer un tel lâcher-prise ? Aujourd'hui, dans Émotion, la journaliste Camille Bichler se demande pourquoi il est si difficile de se montrer vulnérable dans l'intimité amoureuse. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Maison européenne de la photographie. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Je peux te poser une question?
C'est quoi ta vie sentimentale?
Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
Dans le film Les Olympiades, sorti en novembre 2021, le réalisateur Jacques Audiard nous fait suivre le chassé-croisé amoureux de trois femmes et un homme dans le quartier des Olympiades à Paris. Les Olympiades, c'est l'histoire de trentenaires qui sont un peu paumés. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie et se questionnent beaucoup sur les relations amoureuses. En fait, s'ils sont perdus, c'est que leur chemin vers l'amour et l'épanouissement a l'air un peu accidenté. Mais ce tâtonnement des personnages n'est pas du tout déprimant. Émilie, Camille, Nora et Amber se cherchent avec plaisir dans une valse effrénée des corps et du désir.
Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
Cool.
L'un des tandems du film, c'est Nora, une étudiante en droit, et Amber, une cam girl. Un job qui consiste à se montrer dans des poses sexuelles à des clients, en direct, via sa webcam. les deux femmes se rencontrent sur une application de chat et elles commencent à discuter de tout et de rien. Nora finit même par dormir avec son ordinateur portable avec la fenêtre de l'application ouverte pour continuer à regarder Amber jusque dans son lit, pour se donner l'illusion qu'elle dort avec elle. Et au moment où les deux femmes se rencontrent, Nora est très vulnérable. Elle vient d'arriver à Paris, elle ne connaît personne et elle se fait harceler à la fac. Nora se confie à Amber sur ses fragilités, ses faiblesses et dévoile absolument tout de sa vie. En fait, dans cette relation, il n'y a pas vraiment ce jeu de séduction où l'on se tourne autour avant de lever le voile sur ses sentiments. Les deux femmes sont à nu dès le début de la rencontre. Et ce dévoilement, cette sincérité, leur permet de partager une forme d'intimité. Alors que pour la plupart d'entre nous, c'est assez difficile de se dévoiler au tout début d'une relation. Je ne sais pas vous, mais moi, en date, j'ai tendance à cacher mes défauts. En fait, j'avais tellement peur de décevoir l'autre que je préférais masquer certains aspects de ma vie. Par exemple, quand on me demandait si j'étais une teufeuse, je répondais que oui, alors que c'était faux. Moi, je préfère les dîners posés où on refait le monde. Je me mettais aussi une pression pas possible sur ce que je devais porter. Plutôt une robe, bien cintrée, mais bien longue, pour qu'elle cache mes jambes. Je voulais apparaître ultra féminine, alors qu'en fait, je me serais sentie beaucoup mieux en jean et en basket. Aujourd'hui, je me dis que c'est super agréable de pouvoir partager avec l'autre ces moments de faiblesse qui font partie de nous et qui nous ont aidés à nous construire. L'intimité émotionnelle, ça implique d'abord une certaine confiance pour se sentir proche de l'autre. Cette confiance permet par exemple de partager ses sentiments personnels. L'intimité, c'est aussi la possibilité de tout dire à l'autre, de lui donner accès à notre intériorité, à nos désirs, à nos angoisses, de ne pas trop réfléchir ou de calculer, d'être dans une forme de spontanéité, d'être moins dans le jeu. Parce qu'en fait, notre aspiration profonde, c'est d'être aimé pour soi, pour la personne qu'on est. Mais du coup, entrer dans cette intimité avec quelqu'un, c'est aussi prendre un risque, dévoiler nos défauts, nos failles, nos fragilités. Alors, pourquoi c'est parfois compliqué de se dévoiler tel qu'on est vraiment à l'être aimé ? Pourquoi est-ce si difficile de se montrer vulnérable dans l'intimité amoureuse ? Comment sortir de la performance dans la relation pour atteindre le stade de l'intimité amoureuse ?
L'intimité, elle reste. Elle n'est pas cassée par l'intrusion d'un appareil photo ou de quelqu'un qui va sortir son argile et qui va faire une sculpture ou de quelqu'un qui va sortir son crayon ou son papier et faire un dessin. Là, on est le moins intrusif possible, en fait.
Carla Hiraldo-Volo a 29 ans. Elle est franco-dominicaine. Pour la première fois de sa carrière, elle présente une série à la Maison européenne de la photographie, dans le quartier du Marais, à Paris, à partir du 17 juin 2022. Cette série a été réalisée à l'occasion de l'expo Love Songs, qui se tient jusqu'au 21 août 2022 à la MEP. Love Songs, c'est une exposition collective qui offre un nouveau regard sur l'histoire de la photographie à travers le prisme des relations amoureuses. Plusieurs photographes, comme Nan Goldin, Nabuyoshi Araki ou Hervé Guibert, livrent des récits très intimes dans lesquels ils ont immortalisé leur histoire d'amour. Carla a elle aussi capturé les derniers mois de sa relation avec un homme pour sa série Another Love Story. Elle m'a donc raconté son histoire d'amour avec cet homme, qu'on va appeler X, et qui lui a inspiré sa série de photos. Le jour où elle rencontre X, c'est une chaude soirée d'été. Carla vient de sortir d'une relation compliquée et elle ne veut qu'une seule chose, profiter de sa soirée.
Je sors avec une amie en boîte et au milieu de la soirée, au milieu de la foule, en fait, j'aperçois un homme assez grand qui dépasse et de la foule et je lui fais coucou avec la main d'une manière très spontanée parce que c'est pas quelque chose que je fais vraiment d'habitude. Et là, je sais pas, j'ai décidé de vraiment créer une connexion à travers la foule avec lui. Je l'ai repéré, je lui ai fait coucou, je lui ai dit viens. Genre, j'ai un peu vraiment pris les choses en main, quoi, ce moment-là. Et voilà, il s'avance vers moi et on discute. On finit par rigoler ensemble, on s'embrasse et il me propose de me raccompagner chez moi ou en tout cas de partir ensemble de la boîte de nuit. Et je vais voir mon ami parce que je suis pas très sûre à ce moment-là, je passe une super soirée, je m'amuse beaucoup. Mais je suis pas très sûre si j'ai envie de partir avec cette personne. C'est pas hyper évident sur le moment. Et du coup, je demande à mon amie ce que je dois faire. Et elle me dit, allez, vas-y, amuse-toi, c'est l'été, on n'a qu'une vie, etc. Et du coup, je décide un peu sur un pile ou face de le suivre. Et ensuite, on monte sur son scooter et on fait bien, je sais pas, 40 minutes de scooter pour qu'il me ramène chez moi. Et en fait, sur la route, c'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément de points communs, qu'on est en train de lire le même livre. Et en fait, on a les mêmes références, etc. Et là, on se rend compte que ça va peut-être pas être juste l'histoire d'un soir ou d'un baiser ou d'une nuit ou quoi, mais que y a une vraie alchimie et une vraie connexion, on va dire, au-delà du physique.
Carla invite X à passer la nuit chez elle. X rentre chez lui, mais il continue à s'envoyer des messages quasiment tous les jours. À ce moment-là, c'est les vacances d'été. Carla part avec sa mère à l'étranger. Elle continue de discuter avec X sur WhatsApp. Il lui manque beaucoup. Alors, elle lui propose de venir la rejoindre en vacances.
À la fin de mon road trip avec ma mère, je lui dis un peu sur un coup de tête, bah, rejoins-moi. Rejoins-moi, ma mère, elle va rentrer, et puis moi, je vais rester là où je suis. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup énormément plu à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas hésité, il n'y avait pas de jeu. En fait, à ce moment-là, c'était « Ok, tu me plais, tu m'invites, j'arrive ». Et c'est ce qu'il a fait. Le lendemain, il a débarqué et on a passé 3 jours ensemble au soleil dans une ville très belle et on est tombé amoureux à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, donc ça m'a plu direct. Et ensuite, ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui, je pense que c'est il a vraiment un contraste dans sa personnalité où du coup, il est, on va dire, il a une beauté très classique, il vient d'un milieu assez aisé. Enfin, il a des codes comme ça. Qui peuvent paraître assez lisses finalement. Et à la fois, voilà, il fait du parachute, de la boxe. Il a essayé plein de types d'études. Il a un tempérament assez chaud finalement. Et quelqu'un de très spontané, très ardent et très drôle.
Ce charisme et ce tempérament spontané que décrit Carla, c'est quelque chose qui l'impressionne beaucoup chez X. Il est plus âgé qu'elle et il a l'air très sûr de lui. Du coup, au début de leur relation, Carla joue un peu de sa séduction pour se montrer sous son meilleur jour.
Avant qu'il arrive, j'étais super stressée d'ailleurs quand il m'a rejoint à ce moment-là. Là d'ailleurs, je faisais un truc hyper honteux. Je tapais la pause. Genre, j'étais en attendant, j'avais un livre et j'étais assise au soleil en train d'attendre dans mon meilleur profil. J'attendais qu'il débarque. En fait, j'étais tellement en train de poser que quand il est arrivé, en fait, j'étais pas prête et il m'a surpris. J'ai failli tomber. Et voilà. Bref, à ce moment-là, je me suis rendu compte que quand j'attendais, justement, j'avais vraiment super les fourmis partout, les papillons, l'excitation, le cœur qui bat. J'étais vraiment super, super excitée. Et je me suis rendu compte que c'est pas j'attends un date, c'est un peu plus fort, quoi.
Ce que Carla décrit ici, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à l'avoir fait. Vouloir se montrer à son avantage, paraître le ou la plus séduisante possible. Moi, quand je me prépare pour un date, je me dis que la veille, il faut que je sois nickel. Je m'épile, je mets de la crème, du parfum. Alors qu'en général, au quotidien, c'est rare que je sois aussi impeccable.
Quand on séduit quelqu'un, on l'emmène un peu vers un ailleurs, un inconnu et parfois vers quelque chose d'interdit.
Claire Marin est professeure de philosophie et écrivaine.
Et pour séduire l'autre, on va déployer tout un tas d'artifices ou de stratégies parce qu'il y a quelque chose, il sent bien qu'il y a un risque et qu'il y a quelque chose peut-être qui peut éventuellement le détourner de ce qu'il imagine la bonne voie. Donc on est obligé de déployer un certain nombre d'artifices pour séduire l'autre.
En 2019, Claire Marin a publié « Rupture ». Un ouvrage qui m'a beaucoup marquée. J'ai compris que les séparations rythment notre existence et que même si c'est parfois douloureux, elles nous transforment parce qu'elles nous remettent très souvent en question. Ces belles pages du livre de Claire Marin me sont revenues à l'esprit quand je me suis retrouvée devant les photos de la série Winter Journey du photographe japonais Nabuyoshi Araki à la MEP. Pour cette série, il a photographié sa femme malade qui souffrait d'un cancer de l'utérus jusqu'à sa disparition. Araki prend en photo son épouse sur son lit d'hôpital, mais aussi au restaurant, au karaoké. Sur l'un des derniers clichés de la série, le photographe immortalise le corps de son épouse décédée dans son cercueil, ensevelie sous une centaine de fleurs. Ces photos racontent très bien le deuil des relations, la maladie, mais aussi les débuts passionnés de l'amour. J'ai donc eu envie d'inviter Claire Marin à la MEP pour réfléchir au concept de vulnérabilité dans l'intimité amoureuse. Cette vulnérabilité, elle est palpable dès les prémices de la relation, même si on essaye de la dissimuler.
On essaye d'apparaître sous notre meilleur jour dans la séduction parce que ce qu'il s'agit d'éviter, je crois, c'est de montrer des faiblesses ou des failles ou des vulnérabilités. Dans les moments de séduction, il s'agit d'être d'une certaine manière au maximum de ce qui est justement séduisant chez nous. Donc être le plus attirant, le plus drôle, le plus brillant, on est un peu toujours dans le superlatif. Et du coup, c'est une sorte de performance pour celui qui séduit, d'être toujours la meilleure, j'allais dire version de lui-même, c'est un peu une expression cliché, mais il y a quelque chose de cet ordre, c'est d'être au meilleur de soi sous toutes les facettes qui composent notre identité.
Dans la séduction, comme dans toutes les interactions, on est dans le registre du jeu social, qui nous protège du regard des autres. C'est le jeu du pouvoir, l'art d'influencer les autres par son comportement. Dans son ouvrage « Troubles du genre », la philosophe féministe Judith Butler décrit ce jeu social comme un art de la performance. Performer, c'est jouer avec son corps, avec son langage et sa séduction, pour adhérer aux normes et aux valeurs qui régissent notre société. Cet art de la performance, on en joue tous plus ou moins, dès qu'on se retrouve au contact d'autres personnes. Je me rappelle que quand j'étais ado, j'ai eu une période de fascination pour Catherine Deneuve. Je regardais absolument tous les films avec elle. Je la trouvais magnétique. Pour moi, sa beauté froide et son air classe de bourgeoise, c'était la quintessence de la féminité. Et l'une des choses qui me marquait le plus, au-delà de ses robes Saint-Laurent magnifiquement coupées et son brushing impeccable, c'était la façon dont elle avait de fumer ses cigarettes. Un peu comme Gainsbourg. Elle tenait sa clope du bout des doigts et faisait quelques volutes avec ses mains en parlant, avant de porter la cigarette à ses lèvres. J'ai très vite associé la cigarette à un accessoire chic, qui rendait les femmes séduisantes et mystérieuses. Du coup, quand j'ai commencé à fumer, ce n'était non pas pour m'intégrer dans un groupe, mais plutôt pour performer la femme sexy auprès de certaines personnes à qui j'avais envie de plaire. Du moins au début. En fumant, en jouant avec mon corps, en prenant un air détaché, j'avais l'impression d'endosser le rôle d'une femme séduisante. Bon, c'est un peu honteux et cliché, mais associer le fait de fumer à la séduction, je suis sûre qu'on est beaucoup à le faire. Je me souviens avoir lu une interview de l'actrice Marina Foïs, qui expliquait à quel point elle trouvait ça sexy et puissant de voir une femme fumer. Comme si ça lui octroyait une forme de pouvoir.
Il y a des identités qu'on joue. C'est une vieille idée, hein. Pascal disait déjà ça dans Les Pensées, mais on est dans une forme de comédie sociale. Et dans la séduction, peut-être on affine son jeu, on s'ajuste le plus possible à cette figure du séducteur ou de la séductrice.
Au début de sa relation avec X, Carla a entretenu ce jeu de séduction.
J'étais quand même toujours dans l'optique de lui plaire. J'étais quand même toujours très impressionnée par cette personne. Il y avait cette différence d'âge. Et du coup, j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi cette personne que je trouvais si merveilleuse m'aimait en retour. Et m'aimait inconditionnellement comme moi j'aimais inconditionnellement. Ça avait du mal à percuter.
Se prêter au jeu de la performance amoureuse, c'est aussi un moyen de ne pas tout de suite se montrer tel qu'on est vraiment, avec nos failles et nos faiblesses. À moins que ce soit ce qui nous attire chez l'autre. Autrement, dans les relations amoureuses, on se dit souvent que les fragilités, ça fait fuir, parce que ce n'est pas séduisant.
On a du mal à être dans une relation, peut-être, où on est trop transparent, où on est potentiellement vulnérable, où on dit tout de soi, parce qu'on craint que certains aspects, justement, de notre personnalité puissent faire peur, puissent être ennuyeux... puisse éventuellement même être repoussant, on ne sait jamais. Il peut y avoir des éléments de notre identité qui ne plaisent pas à l'autre. Donc, se laisser aller à une forme de transparence être dans une confiance qui fait qu'on va livrer beaucoup de soi, c'est un risque aussi. C'est prendre le risque que certains éléments de l'ordre de la spontanéité, de la vérité intime du sujet, déplaisent à l'autre, ou l'angoisse, ou l'inquiète, et que ce soit finalement la source d'une forme de distance ou de retrait de la part de celui avec qui on essaie de construire une relation qui dépasse ce moment de la séduction.
En fait, ce moment qui dépasse la séduction, c'est une forme de mise à nu. C'est le moment où l'on va se révéler à l'autre, tel qu'on est vraiment, avec nos défauts. Et cette mise à nu, elle peut passer par des éléments très prosaïques de la vie quotidienne. Quand on reste 2 jours de suite en pyjama, avec les cheveux gras en télétravail. Quand on préfère chiller et se faire une soirée Netflix, plutôt que de sortir dans un bar branché. Cette intimité-là, elle peut aussi se créer lorsqu'on révèle des événements du passé qui nous ont marqués, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont construits aussi en tant qu'individus, comme une rupture douloureuse, un deuil ou la maladie. Dans une relation, il y a aussi le moment de bascule où on s'autorise à montrer à l'autre les émotions négatives qu'on ressent. C'est le cas lorsqu'on se met en colère pour la première fois, par exemple. Mais on peut avoir peur que cette forme d'authenticité mette en péril la relation, parce qu'on se dit que ce qu'on va dévoiler peut potentiellement déplaire ou inquiéter l'autre.
Ce qu'on risque, c'est d'exposer à l'autre quelque chose qui nous tient à cœur, qui compte pour nous, qui est un élément essentiel de notre identité, et de nous voir rejetés à cause de cet élément-là. Donc, ça peut être une histoire personnelle qui a été marquée par une tragédie ou un traumatisme. Ça peut être une forme de handicap ou de maladie qui n'était pas visible. Ça peut être des fragilités psychiques. Ou ça peut être aussi des aspirations. Par exemple, ce que je rêve de devenir et dont l'autre va se moquer. Ça va lui sembler ridicule, inaccessible, complètement délirant. Donc, ça peut être à la fois de l'ordre de mon identité, de mon passé, mais aussi de la manière dont je me projette individuellement ou dont je me projette avec cet individu. C'est-à-dire, je peux très bien lui faire part d'un avenir rêvé, partagé avec lui, dans une communauté de vie, voire dans, je peux me projeter avec lui ou avec elle dans une famille, etc. Et je peux voir cette image qui, pour moi, est forte, est dynamique, balayée d'un revers de main. C'est ça le risque, c'est finalement de voir ce qu'on a pu projeter dans la relation à l'autre et de voir qu'on est seul à avoir fait cette projection, qu'elle n'est pas partagée.
Pour Carla, c'était compliqué de se mettre à nu et de se montrer telle qu'elle était vraiment avec X. Parce qu'elle avait en permanence le sentiment qu'elle ne méritait pas sa place au sein de leur couple. Du coup, Carla n'est jamais parvenue à atteindre une véritable intimité émotionnelle avec lui.
Et du coup, ça fait que je suis quand même toujours dans cette performance parce que je me dis, syndrome de l'imposteur, je me dis non mais c'est pas possible, un jour il va se réveiller, il va se dire mais je suis avec qui, elle est trop jeune, elle est trop ceci, trop cela. Et il va se rendre compte de l'erreur qu'il est en train de faire d'être avec moi et donc je suis quand même toujours dans une insécurité.
Carla continue de vivre sa passion avec X. Puis elle est admise à l'école d'art cantonale de Lausanne, en Suisse, pour étudier la photo. Elle quitte donc la France et la relation à distance avec X se détériore. Ils décident de se séparer après 2 ans et demi de relation.
Je sais pas, je me rends compte, mais en fait, mon petit plan de mariage, enfant, est-ce que c'est pas maintenant, c'est pas possible, je suis trop jeune, j'ai trop d'expérience à vivre, trop de voyages à faire. Je suis en train de me chercher en tant qu'artiste, trouver ma voix, etc. Donc en fait, ça capote assez vite. Et c'est finalement moi qui prends la décision, même si ce n'est pas non plus une surprise pour lui, de mettre fin à la relation.
Pendant plusieurs mois, Carla profite de sa vie étudiante à Lausanne. Elle vit quelques histoires avec d'autres hommes, mais rien de sérieux. Au bout d'un moment, elle recommence à échanger avec X par message. De son côté, X est en couple, mais il accepte de revoir Carla pour un café. Carla et X s'avouent alors qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre.
Il pleure dans mes bras 2 fois. On est très émus, je lui montre des photos, je lui montre un projet sur lequel qui tourne un peu autour de lui, il est très ému. Enfin bref, on se retrouve et Donc, je suis très contente et à la fois, je sais que là, il est avec quelqu'un. Donc, je vois pas trop d'issue à part choisi, quoi. Et finalement, encore une fois, très patiente, persuadée que de toute façon, c'est l'homme de ma vie, donc on se retrouvera et qu'il faut juste faire les choses correctement et qu'il va se rendre compte qu'on doit être ensemble, quoi. Et qu'il suivra de toute façon ses paroles, finalement, parce qu'il me dit des choses super fortes. Donc, je lui dis, écoute, prends le temps de se séparer de cette femme. Donc, quitte là et on se revoit de façon avec les pendules à l'heure, bien, frais, dispo et célibataire surtout. On se revoit dans 2 mois après l'été.
X annonce alors à Carla qu'il quitte sa copine pour se mettre en couple avec elle. Après l'été, Carla reprend les cours dans son école d'art de photo à Lausanne et le couple poursuit sa relation à distance. Ils se retrouvent plusieurs fois par mois dans une même ville. Dans ces moments-là, Carla prend beaucoup de photos d'eux pour célébrer cet amour.
Puis, je sais pas, je le trouve trop beau, j'ai envie de le capturer, parce qu'en plus, on est à distance, donc j'ai envie de, quand je suis seule chez moi, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de l'admirer, de l'aimer à distance, et puis de capturer ces moments de tendresse, parce qu'on est très tendre l'un envers l'autre. Moi, je fais beaucoup de portraits dans mon travail, du nu, etc., donc c'est des choses, c'est instinctif aussi, quoi, J'aime bien nous prendre en photo au lit, au réveil, de manière très spontanée. Je prends beaucoup de dos, je l'observe en fait, je le capture en fait, je l'attrape avec mes images pour après le garder au chaud près de moi quand je rentre chez moi, quoi.
Ces photos prises sur le vif de manière très spontanée, Carla décide bientôt de les inclure dans son travail et de construire une série sur l'amour qu'elle vit avec X.
C'est un projet qui devait être quelque chose de toujours un peu dans la performance, puisque je mélange toujours performance et photographie, qui devait être quelque chose de positif, presque un peu cheesy, romantique. Je voulais quelque chose de... Enfin, j'assumais le fait que je voulais raconter comment j'avais retrouvé mon ex-amoureux et comment on s'était remis ensemble. C'était un peu une célébration de l'amour plutôt que ce qui est aujourd'hui une histoire de rupture.
Dans tous ces projets photos, Carla interroge son rapport à l'intime. Elle n'hésite pas à se mettre en scène pour mêler récits autobiographiques et fiction. Donc dans cette série, le but pour elle, c'est de raconter l'amour qu'elle vit au quotidien avec cet homme dans les moments les plus prosaïques de la vie.
Moi, je documente beaucoup ma vie avec mon téléphone, avec mes appareils argentiques et tout ça. Vu que je chéris le souvenir, l'idée du souvenir, j'aime bien, en fait, j'adore en fait me replonger dans mes photos d'avant. J'adore voyager dans le passé à travers les photos.
Les histoires d'amour, c'est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Pour moi, le plus beau champ artistique pour capter l'intimité amoureuse, c'est la photographie. La photo, c'est un médium particulier, parce qu'elle capture sur le vif, en un instant, une émotion éphémère et fugace. Prendre une photo à l'argentique, à l'iPhone ou au Polaroid, c'est figer le temps et graver l'image d'un sourire, d'un baiser ou d'un regard rempli de désir. Avec Carla, on a déambulé dans la Maison européenne de la photographie et je lui ai demandé de me parler d'une photo en particulier qui ouvre sa série Another Love Story. Sur cette photo, on voit Carla torse nu face à un miroir. Elle recouvre son visage avec ses mains et derrière elle, on distingue la silhouette d'un homme. C'est X, qui la tient par le sein gauche et qui prend la photo avec sa main droite. Le flash de la photo éblouit le visage de Carla.
Et c'est lui qui prend la photo, avec un flash.
C'est moi qui lui ai demandé. Avec un flash. Et alors ça,
c'est mis en scène un peu.
Un petit peu, dans le sens où... Oui, là, on... Bon, alors déjà, c'est l'expo... Enfin, c'est la photo, on va dire, clé de l'expo. C'est la première image de toute la série, parce que tout simplement, croyez-le ou non, c'est la première image qu'on a faite quand on s'est remis ensemble. Donc, c'est quand même dingue, et c'est pour ça aussi que j'aimais celle-là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de symbolique dans ces images que je trouve intéressantes. C'est quand même dingue que la première photo qu'on ait faite ensemble, je me cache les yeux, il m'attrape
ça a pas l'air non consenti, mais ça a pas non plus l'air super consenti. Enfin, je suis pas du tout en train de de rendre le geste tendre qu'il est en train de faire. Je me cache les yeux et lui, lui lui-même se cache, m'aveugle avec le putain d'appareil photo et en fait c'est le résumé de toute cette situation.
Oui, c'est
quoi.
On se retrouve tout de suite après une courte pause. En fait, jusque-là, Carla n'est pas parvenue à lâcher prise avec X. Sûrement parce que lui non plus n'a pas lâché prise. Précisément parce qu'il était dans le mensonge depuis le début de la relation. Et ce qui est très beau dans les photos que Carla a prises, c'est qu'elles révèlent déjà la suite et la fin de cet amour, mais aussi la duplicité et l'ambiguïté de X. Je pense notamment à une photo qu'elle a prise de lui lors d'un week-end en vacances. On voit X de dos, en maillot de bain, qui s'approche d'un lac dans lequel il s'apprête à se baigner. Au deuxième plan, sur le lac, il y a une espèce de plateforme flottante depuis laquelle on peut directement sauter à l'eau. Sur cette plateforme en bois, un homme et une femme se chamaillent. Visiblement, ils cherchent à se pousser dans l'eau.
Et là, on voit en fait deux personnes qui se disputent. Enfin, c'est sûrement deux enfants ados qui essaient de se foutre à l'eau, quoi. Mais on dirait vraiment qu'il y a le garçon qui est en train de brutaliser la fille pour la foutre dans l'eau. Et elle, elle se défend et en fait c'est dingue parce que ça résume toute notre histoire quoi. Déjà il y a trois personnes, deux, hein. Et il y a une histoire dans le fond quoi. Il y a une histoire cachée au fond, en arrière-plan, qu'on voit pas forcément au premier regard et ou à laquelle on n'accorde pas forcément trop d'importance. Et en fait c'est là où c'est ce qui se passe dans cette image, c'est là où c'est ça l'histoire la plus intéressante dans l'image. C'est pas X qui descend au loin beau gosse dans l'eau, c'est les deux. Là, qui en arrière-plan sont en train de se disputer. Et il y en a un qui va tomber à l'eau, quoi.
Ouais.
Je la trouve très représentative de notre situation.
Oui, c'est vrai qu'à posteriori, y a un double signifiant, quoi.
C'est ça, j'aime bien ce genre d'image, du coup, que tu fais sans t'en rendre compte. Et en fait, quand tu reviens dessus plus tard, ton angle de vue, le moment, peut-être c'est un hasard, mais moi, je crois pas trop au hasard. Donc c'était sûrement peut-être juste un signe ou je sais pas pourquoi j'étais là à ce moment-là, pourquoi j'ai fait cette photo-là à ce moment-là. Donc ouais, je sais pas, je la trouve intéressante.
Cette photo, Carla l'a peut-être prise par hasard, de manière inconsciente. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est à quel point elle est annonciatrice de la suite de son histoire avec X. Comme si son regard d'artiste avait capté une sorte de vérité et de lucidité sur la situation.
Le photographe ou l'artiste en général dit quelque chose qui est vrai, qui est juste de moi, mais que j'aurais préféré ne pas savoir, que j'aurais préféré ne pas voir. Parfois, cet effet révélateur, il est trop vrai. Il est dans une vérité que mon inconscient fait plein d'efforts pour continuer à dissimuler, mais voilà, le regard très perçant de l'artiste, hein. Bergson dit que l'artiste voit ce que la plupart d'entre nous ne voyons pas, expose quelque chose d'une vérité intime qui est peut-être trop intime, même au sujet lui-même de cette photographie ou de cette œuvre d'art.
Pour le philosophe Henri Bergson, l'artiste est donc avant tout celui qui voit mieux que les autres, car il regarde la vérité nue et sans voile. Le don et l'essence de l'artiste, au-delà de savoir prendre de belles photos ou d'avoir une technique parfaite, c'est celui d'observer et de représenter le monde. Quand nous, simples spectateurs, nous nous contentons parfois de le voir défiler. Le regard de l'artiste redécouvre les êtres et les objets dans leur mystère et dans leur plénitude. Malgré son intuition d'artiste, Carla n'est jamais parvenue à atteindre l'intimité amoureuse dans son couple, essentiellement parce qu'elle n'avait pas confiance en X. La confiance, c'est donc primordial pour pouvoir se dévoiler tel qu'on est à l'être aimé. Mais cette confiance, dans une relation, présuppose qu'on se sente en sécurité avec l'autre, émotionnellement et physiquement.
je sentais que il y avait en face de moi quelqu'un qui ressentait les mêmes choses. Donc c'était pas la même vulnérabilité qu'on peut avoir face à une personne qui nous attire mais qui nous renvoie rien en fait. Où là où peut-être on peut se sentir plus en danger.
Margot Vallard a 44 ans. Elle est photographe. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle vit en couple avec Io Engström, un photographe suédois. Le couple a produit ensemble la série Foreign Affair, qui fait partie de l'exposition Love Songs à la Maison européenne de la photo. Dans cette série, les deux photographes ont capturé les premiers moments de leur passion amoureuse entre la France et la Suède. La rencontre entre les deux artistes a été assez fulgurante. Margot a 25 ans et elle bosse en tant qu'assistante photo dans un atelier à Montreuil, en banlieue parisienne. Io, lui, habite en Suède, mais il est de passage à Paris, car il réalise un documentaire sur le photographe Anders Pettersson.
Et un jour, donc, Anders Pettersson, grand photographe suédois, est venu faire un workshop de quelques jours au sein de l'atelier Reflex. Et ce jour-là, il était accompagné de Io qui le suivait. À ce moment-là, il le faisait un documentaire sur lui. Donc, il est arrivé. J'ai vu d'abord Anders et ensuite, derrière lui, je vois ce jeune homme arriver avec une caméra en train de filmer Anders. J'ai eu clairement je sais pas comment on appelle ça, un crush, j'en sais rien, mais en tout cas un coup de cœur en voyant ce jeune homme filmer Anders.
Margot et Io discutent à l'atelier. Ils commencent à se chercher un peu, ils se draguent, mais ce n'est pas vraiment sérieux. Et puis, à ce moment-là, les deux photographes sont chacun en couple. Pour connaître la suite de l'histoire de Margot et Io, retrouvez-nous dans la partie 2 de cet épisode sur l'intimité amoureuse.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.